Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Les mythes, les contes, les légendes sont un peu comme le sol sous nos pieds. Ils sont composés de motifs imbriqués qui sont autant de strates qui s'assemblent ou se superposent pour former au fil des millénaires des récits servant de socle aux cultures humaines et dont on peut aujourd'hui retracer l'itinéraire dans l'espace et dans le temps. Parmi ces mythes, celui du dragon est omniprésent à la surface du globe, ce qui a donné à notre invité l'idée de mener une enquête colossale à la frontière entre phylogénie, statistique, anthropologie et archéologie pour en comprendre l'origine et la diffusion au fil des âges. D'où viennent les dragons qui peuplent encore notre imaginaire? Comment expliquer la diversité de leurs représentations? Quels outils scientifiques nous permettent aujourd'hui de nous rapprocher du berceau de cette chimère mythologique qui accompagne l'humanité depuis l'aube des temps? C'est l'enquête que nous allons mener avec vous aujourd'hui, Julien Duy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien rattaché au laboratoire d'anthropologie sociale, une unité mixte de recherche Collège de France, EHESS, CNRS et EPHE. Et vous êtes spécialiste de mythologie comparée. Vous publiez aux éditions Armand Collin une somme particulièrement érudite et complète intitulée « Dragon, généalogie mondiale d'un mythe ». Dans cette enquête, vous partez sur les chemins suivis par le mythe du dragon, ou plutôt les mythes du dragon, car vous avez croisé plusieurs milliers de récits de dragons pour ce travail de synthèse colossal, je le disais. Et vous cherchez le mythe originel du dragon qui a engendré tous ceux qui continuent de peupler notre imaginaire d'humain aux quatre coins de la planète. Alors Julien Duy, avant que vous nous présentiez la méthode particulièrement intéressante qui vous permet de partir à la recherche de ce mythe fondateur du dragon, j'aimerais vous poser une question toute simple. Pourquoi avoir fait le choix de ce motif-là en particulier, du dragon? Pourquoi ce mythe-là en particulier?
Alors, à une question simple, il y a rarement une réponse simple et j'en suis sincèrement désolé. Comme beaucoup de personnes, comme beaucoup d'enfants, grand enfant, j'ai le dragon chevillé au corps. Il y a quelque chose dans le dragon qui nous rattache au premier temps de notre vie. Que ce soit dans les films qu'on a pu regarder, dans les romans qu'on a pu lire. Par exemple, j'ai un souvenir particulièrement ému d'un livre que j'avais trouvé dans la bibliothèque parentale, blanc avec des petits traits jaunes dorés dessus, et où j'avais découvert la légende de Saint-Georges combattant le dragon, c'était la légende dorée, et cette image m'a poursuivi, puis avec le temps j'ai croisé, forcément, les curiosités aidant, n'étant pas encore ouvert à toute la mythologie mondiale, mais m'intéressant déjà aux récits, aux croyances, aux façons de voir des autres peuples, je me suis rendu compte que cette histoire de Saint-Georges, on en retrouvait d'autres versions à travers le monde.
Alors, je vais vous poser une autre colle, Julien Duy, une autre question a priori simple, mais qui n'a pas de réponse simple. Quelle définition on peut donner du dragon? Je sais que c'est quasiment mission impossible, mais quels pourraient être les traits communs, caractéristiques à tous les dragons, si tant est qu'il y en existe?
Alors, le dragon, effectivement, tel qu'on le perçoit aujourd'hui, c'est une créature qui est massive, avec des ailes, des pattes absolument colossales, une queue qui crache du feu. Ce dragon est associé à une mythologie où il défend souvent un point d'eau, où il faut lui faire des sacrifices et où il doit être combattu. Sauf que si on élargit notre point de vue, c'est-à-dire si on quitte notre point de vue occidentalo-centré, on se retrouve que ces récits vont se retrouver ailleurs, avec des créatures semblables. Alors, ça ne ressemble pas exactement à notre dragon, mais c'est toujours une chimère, c'est-à-dire un assemblage de plusieurs animaux, et puis il y a une part ophidienne dedans. Et
progressivement, donc, qui
relève du serpent. Et progressivement, on voit des chimères un peu partout, toujours accompagnées des mêmes récits et toujours cette part de serpent. Donc le dragon, que dans le livre j'appelle dracon, c'est l'étymologie grecque qui envoie à la fois au serpent et au dragon, c'est cette chimère accompagnée toujours de récits très similaires où il y a une part de serpent. Et c'est cette chimère dont finalement on peut suivre le chemin à travers le temps et l'espace.
Alors votre livre parle dans son titre d'une généalogie mondiale du mythe du dragon. Pour établir cette généalogie, vous avez mobilisé plusieurs milliers de récits de dragons dans 23 aires géographiques à travers le monde. Alors c'est un vrai sac de nœuds qui a requis bien sûr une approche méthodologique bien particulière pour faire ce tri efficace et finalement donner du sens et agencer ces récits entre eux. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de cette méthode, Julien Duy, que vous avez développée, dont vous êtes un pionnier, qui fait recours à un outil de la biologie de l'évolution, la phylogénie?
Alors, on va partir du terme généalogie. C'est très simple. Que l'auditeur s'imagine et se compare, par exemple, avec son frère ou sa sœur, il y a un certain nombre de points communs entre les deux. Pourquoi? Tout simplement parce que, cher auditeur, vous descendez d'un même parent. Et vous ressemblez à vos cousins plus qu'à un quidam dans la rue, tout simplement parce que vous avez un ancêtre commun plus récent. Donc, pour les mythes, donc j'ai travaillé alors, non seulement sur cette base de données, sur de très très nombreuses bases de données confrontées, etc. Mais pour les mythes, la même chose peut se faire. On va prendre, par exemple, plusieurs versions d'un récit. Et alors, les versions, il y a plusieurs façons de raconter. Le combat contre le dragon, il y a plein de façons de raconter. Toujours avec un air de famille, on va toujours retrouver le sacrifice humain, toujours le combat, etc. Et ça, c'est les versions d'un récit. Et il y en a plein, des versions de combat contre le dragon. Et ces versions, on va les découper en toutes petites unités qu'on appelle des mythèmes. Alors, dans un mythème, on met le moins d'informations possible. Ça correspond, en fait, aux gènes, aux protéines. Mmh. Voilà, il nous faut quelque chose pour comparer les récits le plus objectif possible. Or, si quelqu'un n'est pas d'accord avec les mythèmes, très bien, c'est testable. Il refait l'expérience avec d'autres mythèmes. Et puis, ces petits mythèmes, ces petits éléments, il y a un héros, deux héros, il y a un dragon, deux dragons, le dragon a une tête, deux têtes, trois têtes, etc. Tous ces petits éléments, quand ils sont présents dans un récit, dans une version, on va mettre 1. Quand ils sont absents, on met 0. Alors, pour chaque version, comme ça, on a des chaînes, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Donc, le conteur raconte une belle histoire et puis l'analyste voit des chaînes binaires. Mmh. Et on compare ces chaînes binaires. Et plus il y a de 1 en commun, plus l'ancêtre commun est récent. Et plus il y a de 0 en commun, et plus l'ancêtre commun est lointain. Et une fois qu'on a ces chaînes, on utilise des outils, parce qu'en fait, avec 5 versions d'un récit, on peut faire 105 arbres différents, avec les corpus les plus importants sur lesquels j'ai pu travailler, et plus d'arbres possibles qu'il y a de particules dans l'univers observable. Donc même si j'ai le dragon chevillé au corps...
Devant vous.
C'est ça, ça me ferait quand même pas mal de travail, donc sauf à croire en la réincarnation, y consacrer plusieurs vies, ça deviendrait assez compliqué.
Vous êtes peut-être un dragon vous-même, alors ça, on le saura plus tard.
Qui sait. Mais je n'ai pas de fumée qui sort des narines pour le moment. Donc, quoi qu'il en soit, on utilise ces algorithmes. Et alors, chacun ses forces, ses faiblesses, etc. Et on va recréer des arbres généalogiques. Donc, où plus de versions sont proches, plus elles sont proches au niveau des branches, plus elles sont lointaines, plus elles sont éloignées. Après, on a cet arbre et puis il faut l'enraciner. Là, il y a des méthodes automatiques pour l'enraciner parce que le but, c'est quand même de minimiser le biais de l'observateur. Et comme ça, on obtient un arbre d'évolution des récits de dragons. Mais avec ça, on peut aussi obtenir un arbre d'évolution des traditions, par exemple des traditions linguistiques associées aux dragons. C'est-à-dire qu'on prend une tradition, en simplifiant une tradition, c'est une unité linguistique. On va prendre la tradition française, je dis ça à tout hasard, géographico-linguistique. Puis on va dire, tiens, dans cette tradition, il y a telle chose, tel épisode, tel autre épisode, tel autre épisode, mais on trouve pas tel autre et tel autre qu'on trouve chez les voisins. Et pareil, on peut construire des arbres de tradition liée aux dragons, des arbres d'aire culturelle. Et ce qui est intéressant, c'est pas s'arrêter à un corpus, parce que finalement on a un corpus, on obtient un arbre même s'il est solide. On pourrait dire beaucoup de choses, il peut y avoir des biais statistiques. C'est de confronter tous ces niveaux d'analyse et de voir comment ils se répondent les uns les autres et comment ensemble, un peu à la manière, vous savez, des cordes formées de plusieurs torons, comment ils s'entremêlent entre eux et seul serait quelque chose d'assez fragile, puisque naturellement il y a des biais. Naturellement, je prends moult précautions pour histoire de les circonvenir, mais on peut pas tout. Par principe, les biais ne se voient pas toujours. Mais en travaillant comme ça, avec une multitude de corpus, en construisant une multitude d'arbres, et si tous les arbres se rejoignent, alors, comme la corde est plus solide parce que c'est une union de torons, les conclusions qu'on peut en tirer sont plus solides parce que c'est une union de très nombreux résultats différents.
Et ce qui est très intéressant, Julien Duy, c'est qu'à partir de la constitution de ces arbres philomythologiques, comme on peut le dire, vous parvenez à proposer de retracer une histoire non seulement dans le temps, mais dans l'espace et de la diffusion de ces mythes. Alors, on va tout de suite sauter à l'origine du mythe du dragon à partir de ce travail statistique colossal que vous réalisez. Quelle ère géographique, culturelle, temporelle, dans laquelle de ces ères finalement vous situez le berceau du mythe originel du dragon?
Alors, ce n'est pas moi qui le situe, donc une fois encore, c'est le produit d'estimation statistique et d'enracinement statistique et le produit de plusieurs corpus. Donc, quand on regarde les résultats, bien sûr réfutables, c'est-à-dire qu'on peut toujours tenter de prouver qu'ils sont faux, le but, on est dans la science, on se rend compte que l'arbre qu'on obtient, qui est la synthèse de plusieurs autres arbres, trouve ses racines en Afrique. Alors vous allez me dire, il n'y a rien d'étonnant, hein, l'humanité partant d'Afrique, pourquoi pas ? Sauf que lorsqu'on fait l'analyse, on ne met aucune indication géographique associée aux traditions ou aux versions d'un mythe. C'est-à-dire que l'arbre aurait pu automatiquement s'enraciner en Australie, en Asie du Sud, en Amérique du Sud, non. L'arbre, les arbres, s'enracinent en Afrique. Et à partir de là, on peut suivre, hein, on voit l'arbre qui se déploie, et ça suit, sachant qu'une fois encore, il n'y a aucune indication géographique donnée a priori, l'arbre qu'on obtient va suivre les premières diffusions de l'humanité, avec une branche qui va longer l'océan Pacifique, qui va passer par le Sahul, hein, ces îles qui étaient, donc, on passe par la Nouvelle-Guinée, on arrive en Australie, parce que le premier peuplement par l'humanité, par Homo sapiens de la planète, s'est fait par le sud, et il faisait un peu froid dans le nord, on était en pleine période glaciaire, avec une remontée via le détroit de Bering, on arrive en Amérique du Sud, et puis il y a une deuxième branche, hein, qui suit là encore ce qu'on sait, des premières migrations de l'humanité, et qui part d'Asie, du Sud-Ouest, et qui va remonter cette fois-ci en Eurasie du Nord, jusqu'à s'achever en Amérique du Nord, toujours en passant par le détroit de Bering. Et c'est déjà un premier résultat qui, en soi, aurait suffi. Mmh. Parce que, en partant de données qui n'ont rien à voir avec les migrations humaines, on se retrouve avec une structure très similaire à ce qu'on sait de ces premières migrations, sachant qu'une fois encore, aucune indication géographique, on ne force pas les données, il y a quand même un certain nombre de règles de sagesse scientifique à obtenir.
Alors là, on a fait un grand écart spatio-temporel, puisqu'on parle de avant la sortie d'Homo sapiens d'Afrique, donc vers 250 000, 200 000 ans avant notre ère. Là, les premiers humains en Amérique, on estime ça autour de moins 15 000. Ce mythe du dragon, sur cette période de temps qui est quand même très vaste, on imagine qu'il a évolué. Alors, qu'est-ce qu'on garde de ce mythe originel durant cette diffusion en Asie? Ça, est-ce que vous avez des éléments qui nous permettent de décrire ce tout premier dragon déjà? Et puis comment il évolue, comment il mute?
Alors déjà, oui, le mythe du dragon évolue. Il évolue lentement, on peut le montrer par d'autres moyens, par des moyens empiriques aussi observables, hein, comme l'épopée, enfin on en reparlera peut-être après, l'épopée de Gilgamesh qui va traverser les siècles, qu'on va le retrouver chez les Grecs, sans qu'il y ait vraiment de transmission directe par l'écrit, et ainsi de suite. Et les variations, hein, qui sont liées sont nécessaires pour l'analyse, parce que finalement, toute analyse ne se construit pas sur l'unité du dragon, mais sur le fait que la figure du dragon diverge, se modifie, se transforme. L'esprit humain ne pense pas en mode monolithe, hein, il évolue lentement, certes, mais il évolue. Donc si on remonte à la racine, parce que quand on a une structure d'arbre, on peut imaginer, hein, vous voyez, il y a deux branches, et si les deux branches partagent un trait, on peut imaginer que le nœud commun à ces deux branches partageait, hein, ce trait, l'ancêtre commun partageait ce trait. Et comme ça, nœud par nœud, progressivement, on peut remonter dans le temps jusqu'au premier nœud, ou les premiers nœuds, qui, hein, rappelez-vous, l'arbre sans racine en Afrique, qui nous ramène en Afrique. Et là, on va se retrouver avec plusieurs récits. On va avoir d'abord le serpent arc-en-ciel. Le serpent arc-en-ciel, hein, ça raconte comment, vous savez, le photométéore que l'on voit dans le ciel quand la pluie et le soleil s'interpénètrent est interprété comme un serpent. Alors ça a l'air, peut-être que l'auditeur un peu sceptique que lèvera l'oreille en disant « oui, mais c'est à peu près, c'est évident, ça, c'est facile, tout le monde peut avoir l'idée ». Charge à lui de se rappeler que chez nous, on appelle l'arc-en-ciel arc, puisqu'il est interprété comme un arc et pas comme un serpent. Par ailleurs, il y a une série de traits, hein, qu'on peut suivre sur le parcours, qu'on peut reconstruire, dont on peut reconstruire l'évolution, qui indique que ce serpent arc-en-ciel, dans l'hémisphère sud, est cru sortir d'une termitière, par exemple. Hein, pourquoi pas d'autre part, ou d'une fourmilière. Pourquoi pas d'autre part, il s'agit d'un mythe vraiment qui s'est diffusé. Il ne faut pas le montrer du doigt non plus. Parmi les autres récits qu'on peut reconstruire, il y a l'idée que le serpent supporte ou entoure le monde. Cette idée que la Terre autrefois était instable et repose aujourd'hui sur un immense serpent qui est lové sur lui-même. Ou qui entoure.
Se mord la queue, c'est ça.
Alors ça peut être un serpent qui se mord la queue, mais pas toujours, parce que justement, cette figure se mord la queue. Parfois, le serpent, un peu comme un jeune chiot, court après sa propre queue, et forcément, à chaque fois, il y a un énorme tremblement de terre. Voir un chiot s'amuser avec sa queue a quand même un peu moins de conséquences. Et ce récit, on va le retrouver, par exemple, chez les Dogons ou chez les Fon en Afrique. On va le retrouver en Indonésie, hein, avec le Naga Padoa, etc. Donc, il y a quelque chose de très cohérent dans l'hémisphère sud. Il y a d'autres récits, hein, le lien entre le serpent-dragon et la mort, l'arrivée de la mort, qui raconte... Alors, il y a plusieurs récits qui peuvent être reconstruits, mais généralement, le serpent arrive là où l'humain répond à une question où il n'aurait pas dû répondre, ou alors ne répond pas à une question à laquelle il aurait dû répondre. Le serpent, lui, il a la bonne attitude et garde l'immortalité, c'est pourquoi il mue, c'est pourquoi il change de peau. Parmi quelques autres récits encore qu'on peut reconstruire, il y a cette histoire, cette idée d'une créature très petite qu'on va adopter et sous la forme d'un ver dans l'hémisphère nord, d'un serpent dans l'hémisphère sud. Et on va avoir grand soin. Par exemple, il y a un récit de Tlingit qui raconte comment une jeune Tlingit adopte ce petit ver et va s'en occuper, va le nourrir, etc. Sauf que le ver grandit. Il devient tellement grand, le serpent ou le ver grandit, donc du coup, ça dépend dans quel endroit on se situe. Et il devient tellement grand qu'il devient une menace. Il devient une menace pour la communauté. Chez les Indiens, les Amérindiens de Colombie-Britannique, comme les Tlingit, par exemple, le ver rentre sous le sol et va vider les réserves de tous les habitants, la famine guette. Et il va falloir combattre ce ver. Alors, chez les Tlingit, le ver se rend un petit peu sans combattre. Dans d'autres récits, le serpent vert se combat, menace parfois l'humanité entière. Et ça explique pourquoi les dragons, finalement, on les observe pas si souvent, parce qu'à l'origine, c'est un petit serpent qui va grandir de plus en plus.
Voilà. Julien Duhi, il y a une autre question que je me posais en vous lisant, et vous la posez aussi, c'est cette question de la persistance d'une représentation alors que l'environnement change. On parle d'un serpent, on parle d'un être vivant qui, quand on va passer le détroit de Bering, n'est plus trop présent, et on va s'installer en Amérique, et là, pareil, il n'y aura pas forcément un climat favorable à ça, et vous demandez, le peuplement du Nouveau Monde s'étant réalisé par le détroit de Bering, comment expliquer que les premiers habitants des Amériques aient pu conserver dans leur mémoire l'objet de leur croyance, alors même que cet objet ne faisait plus partie de leur environnement? Ça, c'est une question qui me fascine, de me dire comment un motif, alors qu'il ne fait plus partie de notre environnement, reste dans la parole, reste dans le récit, reste dans ces échanges-là.
Alors, il faut savoir que l'être humain transporte ses mythes, mais les adapte au lieu où il se trouve. S'il n'y a pas de serpent, il y a un substitut très simple au serpent, c'est le ver. Et on peut suivre comme ça c'est ce dont je parlais un instant, on peut suivre comme ça certains mythes qui vont évoluer, puis quand ils montent dans les hautes latitudes, là où le serpent ne peut plus subsister, il est remplacé par le ver. C'est-à-dire qu'on a la même histoire, mais on est là, on a l'histoire d'un ver qui grandit. Ou alors, parfois, il peut s'agir aussi d'un poisson mythologique à deux têtes qui renvoie au serpent, parce que dans l'environnement, on trouve ça. Donc l'histoire reste. Et lorsqu'on a franchi l'endroit où le serpent n'apparaît plus, et on redescend dans des latitudes où le serpent réapparaît, le serpent reprend sa place. C'est ainsi que certains récits ont pu se diffuser bien au-delà des zones où il y avait des serpents. L'imaginaire humain est extrêmement résistant.
On a parlé donc de cette première diffusion, Julien Duhi, vers l'Asie du Sud-Est, le monde austral, le Sahul, les Amériques. Vous identifiez en fait dans ce travail-là, grâce à ce travail de philomythologie, un deuxième mouvement de diffusion, plus tardif, plus dans l'espace eurasiatique. Décrivez-nous cette diffusion et à nouveau la mutation de ce mythe du dragon à partir de cette deuxième diffusion.
Bien sûr. Alors, on a ce premier peuplement qui est dans l'hémisphère sud. Donc ça, qui va longer. La mer est beaucoup plus basse à l'époque. C'est le seul endroit où on est à peu près bien et où l'humanité peut s'installer. Puis, progressivement, la planète va se réchauffer. La calotte glaciaire va fondre et les humains vont pouvoir remonter vers le nord. Alors, ils sont pas remontés dans tous les sens, parce que il y a quand même des endroits plus ou moins faciles pour remonter. Ils sont remontés par l'Asie et l'Asie du Sud-Ouest. Donc, les humains ont commencé à repeupler cet espace désormais libéré. Donc, il y a comme une différence entre le peuplement d'hémisphère sud et le peuplement d'hémisphère nord qui se compte en plusieurs milliers d'années. Et il va y avoir une sorte de blocage entre les deux mouvements de population. C'est-à-dire qu'entre les populations qui sont au sud et les populations qui sont au nord, il y a des chaînes montagneuses, il y a des zones désertiques qui font que les points de contact ne sont pas si nombreux. Donc les humains montent et devant ces nouveaux milieux, devant ces nouveaux décors, ils vont inventer de nouveaux récits. Et ces récits, on va les retrouver partout dans le nord de l'Eurasie, mais aussi dans le nord des Amériques, où le même principe a eu lieu, donc la fonte des glaces, Rome et des espaces laissés libres pour les populations, donc une partie des populations du sud qui sont remontées, mais aussi des nouveaux arrivants. Parmi ces récits, il y en a certains qui nous sont étrangement familiers. Par exemple, le serpent a plusieurs têtes. Donc ça, c'est quelque chose hein, qu'on ne retrouve pas partout, qu'on ne retrouve pas de manière universelle, mais qu'on va retrouver en Amérique du Nord, qu'on va retrouver en Eurasie. Il y a d'autres récits, par exemple, l'idée que le serpent garde un point d'eau et qu'il faut lui sacrifier quelque chose pour pouvoir accéder à ce point d'eau. Là encore, il ne s'agit pas d'un mythe qui est universel. De toute façon, de ce qui est universel, on ne peut pas dire grand-chose, sinon des banalités. Non, en fait, c'est un récit qu'on va retrouver dans le nord de l'Eurasie, qu'on va retrouver en Amérique du Nord. Il y a l'idée, enfin, du combat, du combat contre le serpent. Et là, ça va nous rappeler étrangement des récits connus, parce que dans cette nappe, alors, si on parle des Indo-Européens, c'est-à-dire de notre culture, les chercheurs se sont rendus compte qu'à travers les récits Indo-Européens, donc que du nord de l'Europe jusqu'à l'Inde, hein, comme le nom l'indique, on retrouvait l'idée d'un dieu de l'orage, un dieu de l'orage qui va combattre un serpent et qui, généralement, le serpent retient l'eau. Lorsqu'on va plus à l'est, on retrouve cette idée, sauf que c'est plus un dieu de l'orage qui va combattre un serpent, ça va être un oiseau tonnerre qui va combattre un serpent qui, pareil, soit s'attaque à sa nichée, soit retient l'eau. Et cette idée de l'oiseau tonnerre et du serpent, de ce combat qu'on retrouve représenté un nombre incalculable de fois hein, en Eurasie, eh bien, on va le retrouver en Amérique du Nord, où, parfois, sous des formes de particularisation, hein, on va retrouver ce combat entre l'orage et le serpent qui représente la rétention.
Donc là, on comprend bien que cette deuxième diffusion va ancrer certains motifs qu'on utilise encore, qui ont été utilisés notamment dans la Bible, dans la religion chrétienne, en faisant de ces saints sauroctones comme Saint-Michel, Saint-Georges, qui terrassent des dragons, voilà, des hommes qui vont combattre ce dragon. On est très loin là de ce motif, d'un autre type de motif du serpent amant, qu'on peut retrouver voilà dans le cadre de cette première ère, en tout cas de diffusion. Julien Duy, on s'appelle l'entretien archéologique aujourd'hui. Alors, et toujours, et on s'appellera toujours l'entretien archéologique, mais du coup, j'aimerais comprendre la place de l'archéologie dans tout ça. Comment vous allez chercher dans des fossiles, dans des représentations picturales, pariétales, à des moments où on n'a pas de preuves écrites de l'existence d'un mythe, la trace du dragon? Est-ce qu'il existe des fossiles de dragons? Est-ce qu'il existe des peintures de dragons à la préhistoire?
Alors, les fossiles de dragons, hein, ce serait quand même une sacrée révolution en archéologie, pourquoi pas, mais charge à celui qui avance l'idée.
Ce serait de la paléontologie, mais oui.
C'est ça, de le démontrer. C'est vrai qu'il y a, mais c'est vrai que ça fait le lien, parce que souvent on imagine que les dragons, ce sont des créations. On a retrouvé les humains ont découvert des squelettes de dinosaures et que automatiquement ils ont imaginé les dragons. Hein. Il y a des exemples qui sont célèbres, l'Invurne de Klagenfurt, que je dis pas de bêtises, Klagenfurt, en Autriche par exemple, s'inspirait d'un crâne qui avait été découvert. Bon, on s'est rendu compte après que c'était pas un crâne de dragon, mais de rhinocéros laineux. Pourquoi pas, hein, sauf que ça pose une série de problèmes, et après je réponds à votre question, c'est simplement que déjà ça implique que les humains ayant découvert ces squelettes du dinosaure savaient comment les imbriquer les uns avec les autres, parce que c'est un peu comme une caisse de Lego sans notice. Hein, donc ce qui impliquerait qu'ils seraient peut-être plus forts que nous, puisque la forme du... telle la manière dont on a reconstruit les dinosaures n'a cessé d'évoluer, continue à évoluer aujourd'hui. Donc ça voudrait dire qu'à partir de quelques ossements, ces premiers hommes ou ces humains auraient pu reconstruire un dragon, ce qui est assez étonnant. Donc ça, c'est pour le premier point, le lien hein, avec les squelettes de dragons. Le deuxième point, oui, c'est une très bonne question, parce que la forme, finalement, on peut reconstruire les mythes, on peut montrer la solidité, il y a plein de façons différentes de montrer que les résultats sont corrects, parce que jamais se contenter d'une façon. Mais il faut la réalité, il faut pouvoir toucher directement aux choses. Alors, au niveau des éléments, le premier élément possible, c'est comparer, par exemple, les représentations pariétales. Donc, il y a des représentations pariétales qui sont précolombiennes, hein, y compris en Amérique, par exemple, en Australie. Et il s'avère que ces représentations pariétales, qui représentent une chimère avec un serpent, généralement cornu, hein, correspondent à ce qu'on peut, et les mythologies qui sont associées correspondent à ce qu'on peut reconstruire. Alors, ce serait quand même une sacrée coïncidence et toutes ces représentations pariétales, pile au bon endroit avec les bons mythes, serait apparu par hasard. Mais on peut dire que c'est une coïncidence. Alors si on s'appuie sur l'archéologie, bon bien sûr il y a la Mésopotamie, hein, on retrouve des récits dans le Sahara, on a pu montrer qu'il y avait un combat contre un serpent gigantesque à deux têtes. Et on peut montrer qu'il est fléché. Donc là, on est sur du néolithique. On va me dire, oui, bon, les néolithiques, là, on parle quand même des premières sorties d'Homo sapiens d'Afrique. Donc, faut pouvoir remonter plus loin. Oui. OK, pas de problème. Donc, paléolithique européen. Par exemple, à Lortay, on parlait tout à l'heure du combat entre le serpent et l'oiseau tonnerre. À Lortay, on a trouvé une image qui représente apparemment un serpent. Ça a été interprété comme un serpent, une vipère. Et autour de cette vipère, il y a des têtes d'oiseaux. C'est l'abbé Breuil de mémoire qui les avait interprétées comme ça. Et on a donc ce serpent qui est au milieu, puis des têtes d'oiseaux autour, et puis des chevrons, c'est-à-dire des signes en zigzag qui rappellent l'orage. Bon, alors bien sûr, ça peut être tout autre chose, mais ça répond quand même étrangement aux reconstructions qu'on peut réaliser. Dans la Brimège, on est dans du Magdalénien, en Dordogne, on a retrouvé, alors bien sûr que ça peut être des anguilles, c'est pas forcément des serpents, mais c'est quand même étonnant parce qu'on a trouvé une sorte de créature qui représenterait trois serpents, mais dont seules les têtes sont distinctes, c'est-à-dire l'animal a un corps en commun. Ou encore au Tuc de Toubert, par exemple, ou à Montespan. C'est des grottes, des grottes paléolithiques. Et ces grottes sont toutes deux traversées par une rivière. Et là, on a retrouvé, c'est quand même coïncident, donc il y a les deux grottes, il y a des images qui sont façonnées, modelées, il y a des gravures. Et là, on a retrouvé des serpents. Mais ces serpents, des squelettes de serpents déposés dans des gourds, vous savez, laissés par les ours des cavernes. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ces serpents, tous deux, avaient la tête coupée.
Mais c'était une décapitation intentionnelle.
C'est une décapitation qui est intentionnelle. C'est-à-dire, on a retrouvé tout le squelette, sauf la tête. Donc, il y a probablement un acte rituel derrière. Or, quand on s'intéresse, donc on peut reconstruire la proto-mythologie qui est liée au paléolithique supérieur de l'Eurasie, eh ben, on a déjà ce combat contre le serpent qu'il faut vaincre pour obtenir l'eau. On est dans des grottes traversées par des rivières. Voilà, donc on peut multiplier, parce qu'il y a forcément les images qui sont connues. Par exemple, à Puyang, il y a une sorte de mosaïque en Chine qui représente un dragon. Mais le dragon n'est pas forcément toujours reconnaissable non plus. Parce que quand on s'intéresse au dragon, on se rend compte que les humains qui ne sont pas stupides, qui voient bien, qui n'ont jamais rencontré de serpent dracon à travers le monde, tendent à dire que c'est juste parce que l'animal est doué en métamorphose. Par exemple, les Khoisan, en Afrique australe, pensent qu'il existe un serpent arc-en-ciel, mais ils ne l'ont jamais vu. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Que dans la vie de tous les jours, ce serpent, quand il sort de l'eau, il prend la forme d'un taureau. Ah, les taureaux, ils en ont vu.
Ça simplifie notre histoire. Voilà, je crois qu'il y a une histoire de sanglier aussi.
Oui, c'est ça. Ouais. En Eurasie, il y a des passages réguliers entre le sanglier et le serpent, ou le cochon et le dragon, dragon-serpent. Par exemple, dans la culture Hongshan, donc on est sur du moins 4000, moins 2000 avant notre ère, on a retrouvé des images hybrides qui sont à la fois dragons et sangliers. Si jamais on s'intéresse à la culture celte, on retrouve ce mélange où des dragons peuvent se transformer en cochons, par exemple, etc. Sauf que ça rend les choses plus compliquées, parce que quand on voit la représentation d'un suidé, donc la famille du cochon, du phacochère, etc., du sanglier, comment l'interpréter? Est-ce qu'il s'agit réellement d'un suidé? Mais dans ce cas, pourquoi l'avoir représenté? Enfin, on peut imaginer à quoi on représente, ça peut avoir tout autre symbolique. Ou est-ce que ça signifiait quelque chose d'autre? Donc là encore, la philomythologie permet d'aller au-delà des représentations, parce que finalement, la représentation, il n'y a pas de texte avec, et ce que propose la philomythologie, en termes statistiques prudents, il s'agit de probabilités, c'était stable, c'est d'essayer de reconstruire le récit qui potentiellement pouvait accompagner ces textes.
Et vous le reconstruisez à merveille, Julien Duy, et vous nous permettez de comprendre finalement que les mythes sont aussi, à leur façon, des vecteurs de la mémoire humaine. Merci beaucoup de nous avoir raconté votre enquête folle sur la piste du dragon. Je rappelle le titre de votre livre, Dragon, généalogie mondiale d'un mythe. C'est paru aux éditions Armand Collin. On peut aussi signaler la réédition en poche aux éditions de La Découverte de votre précédent ouvrage, L'Aube des mythes. Merci encore.
Merci.
Notre émission touche à sa fin. Un grand merci à toute l'équipe. Merci à Félix Delacour aujourd'hui à la technique. Merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.